Bonjour,
Bonjour.
bonjour dans la chatroom. Est-ce que vous êtes là? Tiens, je vais lever un petit peu la grue. Yep. Voilà. Hop. Comment
Bienvenue.
Ça va bien?
Salut Samuel, salut Sultan, salut l'atelier de Noah. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Salut Christophe, salut Langue de Geek, salut Lamarck.
Bon
Nous rejoignez.
anniversaire, l'atelier de Noah.
Vous nous recevez 5 sur 5 sur 5.
Donc vous nous recevez bien, pourtant on est sur le réseau là, on prend des risques ce matin.
Ouais, là on est que sur le wifi, donc on va...
SFR, c'est bien, c'est vachement bien, ça marche super bien numéricable SFR.
Très bonne fin de week-end avec votre test. Oui, bon, on va en parler justement tout à l'heure, mais en effet il y a eu une petite vidéo pour terminer le dimanche de bonne humeur.
Ouais, on en parlera au moment des annonces. Voilà, on espère que vous allez bien. Attends, j'étais en train de faire une manip. Ah oui, il fallait que je rajoute un truc. Salut Umbré 001.
Justement, on va parler d'AIM
ouais,
ce matin.
On va en parler effectivement. Attends, je rajoute juste un truc pendant que tu accueilles la chatroom et les gens qui
sont réveillés. Salut Christiane Bicho. J'en profite pour rappeler que, d'ailleurs, je n'ai pas fait l'événement sur Facebook, il y a le Naotech Drink le 11 novembre. Donc, si vous souhaitez nous rencontrer en vrai, en chair et en os, on sera disponible. Nous serons disponibles au Corcoran Sacré-Cœur. Nous serons présents et ravis de vous rencontrer, de faire votre connaissance pour ceux qu'on ne connaît pas encore et ravis de retrouver ceux qu'on connaît déjà et qu'on avait rencontrés à des précédents événements. Bref, rejoignez-nous le 11 novembre au Corcoran Sacré-Cœur, au bar qui a en haut des escaliers de la butte Montmartre. C'est très sympa, on est très sympa, la communauté est assez cool.
Il y aura de la bière, oui.
On lui demande,
c'est un pub. Un pub sans bière.
Il y aura des gens sympas, il y aura de quoi boire, il y aura de quoi manger. Voilà.
De toute façon, c'est obligatoire hein, cette année. Moi, je vous ai prévenu. Voilà, vous pouvez pas. Si vous êtes sur Paris ce jour-là et que vous n'êtes pas au Naotech Drink, il risque de se passer quelque chose. Il y a une faille spatio-temporelle qui va se créer. Ça sera de votre faute. Donc,
il y a l'épisode de Star Trek qui sort aujourd'hui. On sent déjà que Jérôme est dans les starting blocks là.
Le lundi soir, maintenant, c'est sacré. Le lundi soir, même pas la peine de me demander quoi que ce soit.
Michael, tu nous regardes de Las Vegas.
Ah, carrément.
Mais c'est quoi le. Là, il est quelle heure chez toi? Tu nous dis bonsoir d'ailleurs, oui, parce que le décalage horaire.
On demande 10% de tes gains sur Tipeee. Nous imposons toute personne qui va à Las Vegas 10% sur ses gains sur le Tipeee.
Tic Takumi se déplace de Toulouse, donc on n'a aucune excuse pour ne pas venir au Naotech Drink le 11 novembre.
Exactement, exactement.
Pour ne pas rater Tic Takumi, tu as bien raison.
Tout à fait, tout à fait. Et du coup, j'ai tout fait. On va pouvoir commencer, Marion.
On va pouvoir dire le sommaire, de quoi on va parler ce matin. Donc on a déjà confirmé qu'on allait parler de AIM, c'est toi qui commence.
Je vais parler de la fin d'AIM, au début. Et ensuite, toi, Marion, de quoi tu vas nous parler?
Eh bien, moi, je vais venir sur les efforts des géants de la tech pour venir en aide à Puerto Rico, ce qui s'est passé là-bas avec l'ouragan. Et là, cette fois-ci, c'est Google avec Alphabet qui va essayer d'installer, remettre en place le réseau cellulaire pour que les personnes sur place puissent communiquer tout simplement par téléphone.
Voilà. Tu commençais à partir, là.
Oui.
Mais je te laisse faire. Eh bien, on parlera également de la visite de Tim le cuisinier, de Tim Cook, qui va qui va venir en France. Et il a rendez-vous avec le président Macron. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Est-ce qu'ils vont parler d'iPhone? Est-ce qu'ils vont parler de batterie d'iPhone? Non, là, je suis en train d'empiéter.
Qu'est-ce qui va se passer, Emmanuel, Tim? Dites-nous.
Dites-nous tout. Hein. On attend vos petits tweets, vos live tweets.
Et puis, on parlera aussi du marché des applications en France. On va s'intéresser justement plus spécifiquement à la France. Comment ça s'est développé ou pas? Quelles sont les applications phares? Et qu'est-ce que ça représente en termes de sous-sous, tout simplement?
Tout à fait. Et justement, pour abreuver les discussions d'Emmanuel Macron et de Tim Cook cet après-midi, ils vont peut-être parler des batteries d'iPhone 8 qui gonflent. Et oui, ça y est, on a un Apple Gate pour l'iPhone. C'est bien pour l'iPhone 8 parce que c'était un peu l'iPhone dont tout le monde n'en avait rien à foutre de faire. Eh bien, il aura son petit Apple Gate, il gonfle, il n'explose pas, il gonfle lui, voilà, il explose son écran. On parlera justement, on va trier un petit peu parce que beaucoup d'articles parlent de ça pour faire du clic. Le phénomène n'est peut-être pas si anormal que ça.
Salut Amanda.
Bonjour Amanda, c'est qui Amanda? Ah,
Avant de
Amanda,
gonfler,
Amanda, bonjour Amanda.
qu'on suit. On parlera aussi d'art. Alors les gens vous me regardent, mais qu'est-ce qui se passe là sur TechScope? Pourquoi on va parler d'art? Eh bien oui, on va parler d'art avec un des artistes majeurs de sa génération, c'est Jeff Koons, qui a mis en place une œuvre dans un espace inhabituel, mais dont on parle beaucoup en ce moment. Et d'autres artistes sont venus, comment dire, vandaliser son œuvre dans cet espace bien particulier. Et on verra justement que ça va soulever des questions très intéressantes sur notre monde et l'évolution des technologies.
L'art vient féconder l'art et nourrit nos esprits. C'est un peu ça. Oui, bon,
Ou
enfin.
même critiquer.
Oui, non, mais c'est bien. Ils ont fait des cochons sur l'art. Le lard, le cochon. Moi, je vais vous parler des avis clients. Et oui, avant d'acheter quelque chose, d'abord, vous demandez à Jérôme sur Twitter s'il faut l'acheter. Je vous remercie d'ailleurs. Il y en a qui vont bientôt me demander s'il faut qu'ils achètent un pain au chocolat ou un croissant sur Twitter. Non, je ne me plains pas, mais j'ai beaucoup de demandes qu'est-ce qu'ils doivent acheter. Mais les avis clients, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de vital. Et justement, on va peut-être, il serait peut-être temps qu'on légifère un petit peu sur les avis, parce qu'on sait qu'il y a des faux avis et que ces avis sont très importants dans les actes d'achat. Donc, il va falloir légiférer. Et Marion, tu as une super annonce en fin d'émission qui va ravir les petits et les grands.
Oui, alors ne vous enflammez pas parce que ça ne va pas arriver pour Noël, même si ce serait un cadeau de Noël que les plus grands et les petits seraient ravis d'avoir. C'est le retour du chien Aibo de Sony. Sony se relance dans la course de la robotique et de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a plein de plans et de promesses présentées par la firme.
Regarde, je fais le Aibo.
Ouais, ce sera aussi utile qu'il y a quelques années.
Donc, je crois que je suis pas utile.
En sous forme d'iPhone, non, pas vraiment.
Alors, les gens ont beaucoup aimé hein, la semaine dernière mon dragon en réalité augmentée. Donc, il vient vous dire bonjour ce matin. T'as pas suivi les Techscopes de.
Non,
Eh ben voilà.
mais moi, je regarde pas les Techscopes le
Ben non,
matin.
t'as autre chose à foutre. Allez, on va pouvoir commencer ce Techscope sur les chapeaux de roue. On a la pêche, on a bien dormi, on espère que vous aussi. Et on va commencer en parlant effectivement d'AOL Instant Messenger, pardon.
Il est resté coincé dans
Il est
TikTok.
crade. AOL Instant Messenger. Marion, t'as rien raté. Tu vois, t'as rien raté la semaine dernière.
Marion a un vrai travail. Je précise que quand vous faites Techscope, je ne suis pas au travail et on a chacun un travail en fait.
Oui, le truc, les youtubeurs, c'est pas un boulot. Oui, c'est vrai.
Non, c'est pas vrai.
Bah non, c'est pas vrai. Mais non, non,
T'es quand
mais.
même indépendant et
Oui. Non, mais j'allais dire, si un boulot, c'est le salaire qu'on gagne, on peut dire que YouTube n'est pas vraiment un boulot. Oui, ça, c'est sûr.
Ça, c'est
Mais en
vrai.
termes de charge de travail, non, c'est pas un boulot, c'est de l'esclavagisme.
Disons qu'il est entre le bénévolat et
Et l'esclavagisme aussi.
l'esclavagisme, ouais,
Il y
c'est
a une
pas
part
mal.
d'esclavagisme. Bref, revenons à nos moutons et revenons à AOL Instant Messenger qui va fermer après 20 ans de bons et loyaux services. C'est quand même un moment d'émotion. Et d'ailleurs, pour ne pas s'y tromper, il y a eu des posts assez intéressants et notamment de Mark Zuckerberg qui a admis à quel point AIM l'avait influencé aussi dans les débuts de Facebook. Et moi, j'ai appris des trucs. C'est qu'avant Facebook, il avait construit un espèce de faux Facebook, enfin les prémices de Facebook pour l'entreprise de son père, un espèce d'AIM pour la boîte de son père, Donc, on était vraiment, là, on est dans la préhistoire, ça ne s'appelait pas encore des réseaux sociaux, mais c'était effectivement les premiers moyens de créer sa communauté virtuelle, de discuter avec. Il y a des gens aussi qui disaient, moi, j'ai appris à écrire sur AIM. Il y a toute une génération, d'ailleurs, on voit pourquoi il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'orthographe. Oui, bah, pour certains, c'est l'enfance, AIM. Et ils avaient ça sur l'ordinateur de leur père. Qui dans la chatroom a eu merci Patrick pour ton super chat, merci beaucoup.
Petite contribution à notre youtubeur préféré.
Ouais, et ben écoute, un grand merci à toi.
Et tu... avec
et tu es notre super chat préféré jaune orange aujourd'hui. c'est vrai que alors toi Marion, est-ce que tu l'as utilisé à IM? Pas du tout.
Je connais. Je connaissais.
À l'époque, tu faisais pas du tout Internet.
Non, moi, je suis la génération Messenger.
Bah, c'était un... Oui, Messenger est arrivé un tout petit peu après.
Mais tu vois, moi, je suis plus...
Ils ont coïncidé, ouais.
J'ai directement opté pour Messenger à l'époque.
MSN, il y avait ICQ aussi, ouais. Caramel.
Caramel, je connaissais, mais je l'ai pas utilisé non plus. Moi, c'était vraiment MSN. Hein.
D'accord. Alors, pas confondre AOL Instant Messenger et AOL, effectivement, à 99 francs par mois pour l'Internet illimité, les fameux CD qu'on recevait par la poste et dont on remplissait les poubelles. T'as connu ça ou pas? Ouais, les CD à jeter. Oh là là, c'était fou quand même cette époque-là. Et ils ferment, effectivement, le message qu'ils ont envoyé, c'est de dire qu'ils ont été effectivement... très content pendant 20 ans d'accompagner notre arrivée sur les réseaux sociaux, mais que maintenant il doit travailler sur des nouveaux produits. Il y a encore des gens hein, qui utilisaient AIM, moi ça fait bien longtemps. Alors ce qui est marrant moi dans mon histoire personnelle, j'ai un peu raté le coche AIM, ICQ, Messenger, parce que c'est l'époque de ma vie, ça va vous surprendre dans la chatroom, c'est l'époque de ma vie où je m'intéressais le moins à la tech, aux ordinateurs et tout ça. Il y a 20 ans, moi, j'étais...
Tu as renié ta geekitude.
Exactement. Il y a 20 ans, j'étais à fond dans la pub. Donc, j'allais boire du champagne. On allait dans des soirées de publard. On prenait de la coke. Enfin, vous avez tous vu 99 francs. Hein. Moi, je vivais comme ça hein, à l'époque. Non, je plaisante. Il n'y a pas de cosplay, il y a de la coke dans mon agence. Mais bon, bref. Non, j'étais très voilà, dans le monde de la pub. Et quelque part, je reniais mon passé de geek à cette époque-là. Et j'étais pas trop sur Internet. Moi, en plus, à l'époque, dans la pub, parce qu'il y avait les débuts de la pub sur Internet, moi, j'étais vraiment... Je travaillais pour des marques de luxe en print. Donc, j'ai pas du tout connu, en fait, cette époque-là. Si, enfin, c'était il y a pas 20 ans, mais je commençais les MMO quand même. En secret, le week-end, je jouais aux MMO.
Mais c'est ça, en secret.
En secret, ouais, je me cachais... Je me cachais. Donc voilà, c'est la fin en tout cas d'AIM. Une page se tourne, mais je pense que ça aura marqué une génération qui va être importante, les millennials. C'est la dernière génération qui aura connu le monde d'avant. Je pense quand même qu'il y a une mutation profonde avec les réseaux sociaux du monde qu'on connaît. Et les millennials seront certainement la dernière génération qui se souviendra du monde d'avant.
Il était déjà très, très geek hein, quand on s'est rencontrés, puisqu'il il avait lancé No Watch.
Ah oui,
et
oui,
il faisait
oui.
Les émissions, les fameuses émissions pour lesquelles on le connaît. Donc, je ne l'ai pas du tout remis dans le droit chemin.
De toute façon, je pense que tu m'aurais connu à cette époque-là, tu ne m'aurais pas du tout
Ça n'aurait pas marché du tout.
Je luttais contre ma nature et ne chassais jamais la nature. Elle revient en galop, en plein dans la gueule et on se fait piétiner. Voilà. Allez, on va passer peut-être aux petits messages, aux petites annonces, Marion, même avec une minute d'avance, c'est un record absolu aujourd'hui. Petites annonces, on va juste annoncer qu'il y a une vidéo qui est sortie hier. Effectivement, je vous avais dit que je n'arriverais pas à la sortir et qu'il n'y aurait pas de vidéo cette semaine. Cochon qui s'en dédie. Il y a eu une vidéo la semaine dernière sur l'Intech. Il y a eu des larmes et de la sueur et de la chueur de pigeon d'ailleurs sur cette vidéo. Pour la petite histoire, elle devait être prête vendredi, mais j'ai tout perdu, crash disque dur, enfin bon, des gros problèmes de fichiers. Je remercie encore Geoffrey, de m'avoir aidé vendredi à retourner cette vidéo, à Marion pour sa patience ce week-end. On a eu un week-end très studieux. On est quand même arrivé à faire quelques activités ce week-end. On est allé au cinéma. Ouais, quand même.
On a fait la nuit blanche.
Ouais. J'ai fait pas mal de nuits blanches, en fait. J'ai fait la nuit blanche vendredi. J'ai fait la nuit blanche samedi.
Vous étiez pas au courant, il y avait un programme d'enfer.
Ouais. J'étais très... très... Alors, la vidéo, je le dis tout de suite, elle est sortie. Il y a des imperfections, je le reconnais. Quand je travaille très vite, ben forcément, il y a des petites choses qui sont moins bien fignolées que d'habitude, mais ça va, elle tient quand même la route. Il y a deux, trois phrases coupées et deux, trois problèmes d'étalonnage, heureusement que personne n'a vu, mais elle tient la route. Et c'est sur l'Apple Watch 3 où je vous dis s'il faut la prendre en cellulaire ou pas. Donc, si vous ne l'avez pas vue hier soir, elle est disponible pour vos yeux aujourd'hui.
Et je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, le 11 novembre, retrouvez-nous au pub Le Corcoran Sacré-Cœur pour passer une agréable soirée en très bonne compagnie avec des gens sympas à discuter de nos sujets préférés, à savoir la tech. Voilà. Donc retrouvez-nous, rejoignez-nous le 11 novembre. C'est le week-end où il y a le salon de la photo aussi. Donc on fait d'une pierre deux coups pour les personnes qui souhaitent se déplacer à l'occasion du salon de la photo.
Guillaume, Pierre! Tu sais, il y a un, deux, trois, ils sont en train de dormir dans leur café, ils entendent pub, bière, beer.
Il n'est même pas 9h, les gars, là.
On devrait donner une thématique au Now Take a Drink. On va faire un Now Take a Drink chez les nains, tu sais, avec des grandes chopes de bière et des chansons de nains bien tristes comme dans The Hobbit.
Ah, ça me donne envie de l'envoi.
Juste d'écouter la chanson.
Non, le premier.
Ouais, bah tiens, ouais, on va se refaire The Hobbit. Ouais. D'ailleurs, on est allé voir, on a regardé le premier Blade Runner et ouais. On est allé voir nouveau. On a bien, enfin, toi, t'as un peu moins aimé que moi, mais pas mal quand même le dernier Blade Runner.
Bref, on en parlera potentiellement à la fin de l'émission si vous souhaitez en savoir plus sur nos avis sur Blade Runner 2049. En attendant, on enchaîne avec la suite de l'émission et on va revenir sur les efforts des géants de la tech pour venir en aide aux personnes qui sont à Puerto Rico, vous savez, où il y a eu l'ouragan Maria. Joli nom, l'ouragan Maria, malheureusement, qui a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes d'inondation, de problèmes de connexion d'électricité, le réseau qui est tombé, plus possibilité de passer des appels, enfin bref, il y a même des problèmes d'eau courante, etc. Donc voilà, les personnes qui sont là-bas sont vraiment... dans une détresse importante. Et donc, justement, les géants de la tech, là, se remontent les manches pour essayer de restaurer certains services, les premiers et les plus critiques, le plus rapidement possible. Donc, on avait entendu parler de Tesla qui avait promis qu'il souhaitait installer le plus rapidement des batteries. Donc, ils sont déjà sur place avec des équipes pour essayer de former les personnes sur place pour pouvoir faire la maintenance et produire de l'énergie plus rapidement et restaurer quelques services. Et là, c'est Google, ou en tout cas, c'est plutôt Alphabet, la maison mère, qui vient en aide à Puerto Rico en souhaitant installer et en déployant les projets, les ballons volants, les ballons flottants. C'est le Project Loons qui avait été développé dans la filiale X d'Alphabet. Vous savez, cette filiale d'innovation et de projets un peu moonshot d'Alphabet. Désolée, je tendance à confondre Google et Alphabet, mais c'est Alphabet. Et donc, le principe, c'est de déployer un réseau cellulaire pour permettre aux personnes de pouvoir communiquer et s'appeler tout simplement avec des téléphones. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. C'est ça qui rend aussi la localisation de personnes et la coordination des efforts sur place très compliqué. Donc, c'est un vrai enjeu, pouvoir coordonner les efforts et communiquer avec les personnes sur place. Bravo à Google. Alors attention, c'est pas encore fait. Ça a été approuvé par la FCC, hein, la Federal Communication Commission. Donc ça, c'est déjà un point important. Et maintenant, ils sont en négociation avec des télécoms sur place parce que les ballons tout seuls ne font rien. Il faut avoir un accord avec les télécoms sur place pour pouvoir déployer le réseau cellulaire et le mettre à disposition de tous. Donc voilà, qu'est-ce que...
Bah, c'est intéressant quand même, effectivement, Loon, on le voit, sur de pouvoir déployer très rapidement un réseau cellulaire sur une zone de catastrophe.
C'est pas la première fois d'ailleurs, hein. Ils l'ont fait au Pérou. Ils l'ont fait au Pérou c'était l'année dernière, en début d'année, pardon. Et il y avait aussi une inondation, etc. Ça avait bien marché. Et voilà, et donc ils peuvent tenir 100 jours maximum dans la stratosphère. Ils se déplacent via l'air et ils peuvent du coup, selon la pression dans les ballons, descendre ou remonter dans les airs et utiliser les courants d'air pour pouvoir
se stabiliser sur la zone et tout ça. Et surtout, c'est un déploiement qui, bon, ça coûte quand même cher, mais par rapport... Et surtout, ça peut se faire extrêmement rapidement, quoi, par rapport à remonter les antennes cellulaires et ce genre de choses. Ça peut effectivement... et on le sait, hein, le cellulaire sauve des vies quand même, parce que ça permet effectivement de rester en contact, non pas seulement avec ses proches, mais aussi avec les secours, avoir les bonnes consignes en cas de catastrophe.
Oui, bien sûr, mais même coordonner les choses et coordonner les équipes de secours sur place. C'est bien d'avoir des secours, mais ils savent pas, s'ils ne savent pas où ils sont le plus demandés et où la situation est le plus critique, c'est compliqué aussi. Donc il faut pouvoir justement pouvoir acheminer des médicaments à certains endroits et pas tous les médicaments au même endroit. Enfin voilà, il faut pouvoir communiquer. La communication aujourd'hui est vitale pour pouvoir répondre aux besoins de ces personnes qui sont dans la détresse.
On sait que le son n'est pas très bon. Ça fait 3 semaines. On a essayé tout un tas de choses. On ne peut rien de notre côté. Ça vient a priori de l'application YouTube Live Mobile qui a une drôle de manière de compresser le son. Donc chez certains, en tout cas, la réception du son n'est pas excellente, mais on ne peut rien y faire. Voilà. Même en redémarrant, même en se mettant en 4G, même en mettant un micro, en enlevant le micro, on n'a pas trouvé de solution. Donc, désolé, on espère que ça va être rétabli un jour. Sinon, voilà, on fera l'émission du matin avec le pire son qui existe.
Alors, dis-nous, qui vient nous rendre visite ?
Eh bien, Tim Cook. Tim Cook vient à Paris pour faire des photos avec son iPhone 8 Plus ou son iPhone 10. Non, il vient à Paris pour rencontrer, en tout cas, entre autres, mais il a rendez-vous avec le président à 14h, non, à 16h15. 16h15, donc il va avoir genre un quart d'heure. Non, je pense qu'ils vont passer un petit peu plus de temps. C'est vrai qu'il y a quand même des dossiers qu'elles doivent aborder. On va dire, il y a les dossiers agréables qui vont être l'éducation et ce genre de choses. Il y a l'intelligence artificielle.
Tim va cuisiner Emmanuel. Il a fait un meilleur jeu de mots que toi.
Je l'avais déjà fait, hein, Tim Cuisine. Oh. Hein.
Non, mais Tim Cuisine, c'est pas pareil.
Tim Mijote, Tim est à une pression de cocotte minute. Je les ai toutes faites sur Tim Cook.
Sous pression.
Non,
ça marche pas. Bref.
Bonne tentative, Marion, mais. Bref, il y a des dossiers qui vont être moins agréables, notamment en redressement fiscal. C'est vrai que, à mon avis, Tim Cook, je vois bien la discussion avec Tim Cook. Allez, Emmanuel, je te file un iPhone 10, mais tu me baisses quand même mon redressement fiscal. Allez, sois cool. Fais pas ta pute. Enfin, voilà, ça va être le genre de discussion très, très pro qu'il va y avoir.
Très pro, ouais, c'est le mot.
Non, mais je pense que généralement, enfin, Tim Cook est déjà venu cette année pour voir le staff des Apple Store. La France est quand même un marché très important pour Apple, manifestement plus que pour Google, hein, petit tacle au passage, le Pixel 2, on ne l'aura pas, what the fuck. Voilà, Tim Cook, et il sait aussi, parce que c'est quand même un fin stratège, que son dossier fiscal, il est européen, et que le poids de la France dans les décisions de l'Europe est quand même important. Donc, opération séduction, à mon avis, quand même, de Tim
Cook. Non, puis bon, Emmanuel Macron a quand même porté sur les nouvelles technologies, oui, les enjeux, oui. L'ego des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Donc, ils peuvent aussi avoir des discussions plus dans le futur aussi.
Oui, tout à fait. Je ne sais pas après si... Alors, je pense que Macron a son téléphone d'État qui doit être... je ne sais pas ce que c'est comme modèle, mais en téléphone, est-ce qu'il a... Ah oui, sur son bureau, il y avait deux iPhones. Ah, bah voilà. Ouais, il y avait deux iPhones. En fait, Tim Cook est juste venu lui amener deux iPhone 10. Voilà.
Tim, si tu veux en déposer un dans ma boîte aux lettres, t'es bienvenue.
Ah oui, Tim, si tu... voilà. Non, mais même pas. Tim, si tu me passes un petit coup de fil et que tu me dis « Jerome, you'll be sure to have an iPhone 10 for your channel. The morning, they'll be up. » Eh bien, ça me ferait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, la grosse angoisse pour Naotech TV, c'est est-ce qu'on va avoir un iPhone 10 à tester le jour de sa sortie ? Vu les rumeurs qu'il y a de rupture immédiate, ça risque d'être chaud. On en reparlera de cette histoire. On va peut-être vous mettre à contribution pour nous aider à avoir un téléphone le jour de sa sortie. Et il y aura peut-être même une récompense avec clé.
Coordonner les efforts pour commander et avoir le plus tôt possible un iPhone 10.
Tout à fait, tout à fait.
Pour voilà. Ceux qui souhaitent en commander.
Donc, juste, je termine. Je propose à l'Assemblée des pigeons parisiens de faire honneur à Tim Cook. Donc, je propose un lâcher de pigeons devant les bureaux, puisqu'on dit que les acheteurs iPhone sont des pigeons.
Oui, merci.
Et voilà.
J'adore, il est à tout le... Enfin,
Non, je voyais juste ton regard
dubitatif. Je me prends quelqu'un d'autre de ta famille, mais...
Oui, j'ai une sœur qui ne comprend pas les jeux de mots. Ça arrive. Bref.
Je suis allée jusqu'à dire. Voilà.
Je n'ai pas dit laquelle.
C'est pas sympa.
Bref, lâcher le pigeon aujourd'hui sur Paris en l'honneur de Tim Cook. À toi, Marion.
Je ne sais pas comment enchaîner sur un...
Ah bah là, j'ai fait exprès. Tu me coupes. Moi, je te laisse un enchaînement de merde.
Ok, on va rester en France. On va rester en France avec le marché des applications.
Pas mal.
T'as vu, hein, je... Avec le marché des applications, qu'est-ce que ça représente justement au niveau de la France et au niveau de la croissance. Donc ça, c'est intéressant. À savoir, en 2016, le marché représentait 460 millions d'euros en achat d'applications en 2016. Donc, d'après ce que j'ai vu, ça compte aussi tout ce qui est abonnement, achat in-app, achat d'applications, etc. Donc vraiment le marché des applications au sens large. Donc c'est déjà pas mal. Et cette année, donc 2017, il prévoit une hausse de 42% pour le marché. Donc ça irait jusqu'à 655 millions d'euros. À savoir, ce qui est encore plus intéressant, le marché français des applications n'est pas considéré comme mature. Donc, ça veut dire que ce n'est que de la croissance.
C'est que le début.
Voilà, c'est que le début, ou peut-être pas le début, mais voilà, ça reste en croissance. Le marché n'est pas mature. Donc, en tout cas, la croissance de ce marché d'applications va continuer sur les années à venir. Et donc, ça représente un enjeu financier conséquent pour pas mal de sociétés. Et donc justement, quelles sont les applications les plus téléchargées ? Alors sans surprise, c'est celles qui reviennent à chaque fois, hein, c'est celles dont on parle souvent, c'est évidemment toute la suite Facebook. Donc quand je parle de toute la suite Facebook, c'est évidemment Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram et compagnie. Vraiment toute l'univers Facebook de ces applications. On retrouve évidemment ensuite Snapchat, mais aussi on retrouve surtout en termes de revenus et de génération d'argent, ça va être plutôt les applications avec un système d'abonnement et une catégorie bien spécifique d'applications en France. Réputé pour nos histoires d'amour en France, et bien justement, c'est les applications de rencontres qui rencontrent un grand succès en France.
Ouais, mais ça, c'est un peu humiliant. Normalement, on est des super dragueurs, machin, et on a besoin quand même d'applications de rencontres.
Non, mais on est moderne.
Normalement, de Frenchmen
qui
aiment draguer everywhere.
Bah alors, Cyrano de Bergerac, tu crois qu'il allait draguer comme ça, non?
Non, mais t'imagines Cyrano de Bergerac en 140 caractères?
Bah justement, c'est un challenge.
C'est un pic. Tweet suivant. C'est une péninsule. Tweet suivant.
Non mais maintenant c'est le double.
Oui, maintenant il peut doubler. Ça y est, Cyrano, tu peux venir sur Twitter.
Non mais voilà, on a tout plein de méthodes pour séduire.
Casanova, c'est italien. Hein. Je ne veux pas te vexer, mais
Voilà.
Casanova, ce n'est pas le séducteur français. Hein.
Il faut réviser les
Et
classiques.
puis, il avait la syphilis. Hein, donc,
Ah, oh, c'est
comme
charmant.
tous les Italiens. Ah non, mais quand il s'agit de défendre le French Lover, moi, je suis capable de tous les coups bas.
N'importe quoi,
Hein.
n'importe quoi, ne l'écoutez pas. Alors moi j'étais pour la paix dans le monde, j'ai juste cité Cyrano Bergerac et lui il parle de... Bref, donc voilà, on séduit de plein de manières en France et notamment via les applications de rencontres, donc Adopt un mec, Tinder, Badou et Mythique, via un système d'abonnement mensuel. Vous remarquerez que Netflix n'est pas là, hein. En effet, c'est...
Netflix, ça vient après. Une fois que tu t'es casé, c'est soirée Netflix. C'est pas mal ça. Au début, en fait, pour trouver l'amour,
Tu transfères ton
tu
abonnement.
transfères ton abonnement. Bon, Mythique, j'en ai plus besoin. Maintenant, bon, on va se
Il y
prendre.
a quelque chose à faire, hein. C'est-à-dire que si
Ouais.
Mythique adopte un mec, peut-être essayer de vous rencarder avec Netflix pour prévoir, une fois que la personne est en couple, passer l'abonnement directement. Et ça vous fait
Voilà. Et
apporteur d'affaires chez Netflix.
après 3 ans chez Netflix, quand t'as les bedaines qui poussent à force de binge-watcher en mangeant des pizzas, là, tu te mets aux applis de sport payantes. Et puis après, c'est la caisse d'assurance retraite hein, pour mesurer tes points.
Ah, j'allais dire
Voilà.
les avocats connectés pour le divorce.
Oui, les avocats, ouais, pas mal.
Quand t'as pas réussi ton appel sport et retrouver la forme.
Ta vie en application.
C'est pas
Tu
mal.
commences avec un truc genre Adibou, les trucs à
Bref,
l'époque. Bref.
on part dans notre délire là, désolé. Oui, Netflix augmente ses tarifs. Calmez-vous, on va en parler.
Ben non, on en a déjà
On en
parlé.
a parlé, t'en as parlé
C'était
vendredi, c'est ça?
super, super old de la tanneuse.
Super old, oh là là. Voilà, donc comme quoi le marché français est en croissance. Voilà, je pense que cette étude qui a été commandée, faite dans le cadre, pour le Figaro, va intéresser pas mal de sociétés en France pour voilà, comprendre l'enjeu financier que représente le marché des applications.
On focus, hein, Gilles,
On
presque.
focus et on enchaîne avec la suite.
On enchaîne avec la suite. Des iPhone explosent. Non, ils explosent pas. Ils gonflent. Ils gonflent.
C'est gonflé quand même.
Comme de la vieille levure. Pas
Ouais.
mal, pas mal, Marion. Comme de la vieille levure, les iPhone 8 gonflent et arrivent avec l'écran complètement explosé. C'est l'iPhone Gate qu'on attendait. Hein. Regardez ces photos. C'est complètement édifiant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, parlons du nombre de cas. A priori, les news sont contradictoires, mais il y aura entre 3 et 8 cas dans le monde d'iPhone 8 qui sont arrivés comme ça. Donc, c'est une vraie épidémie. Non, je me moque pas parce que c'est vrai que c'est quand même un problème grave. Et Apple, d'ailleurs, a tout de suite dit, on est en train de se renseigner sur l'affaire. Bon, sachez-le quand même, des batteries qui gonflent, ça arrive. Moi, j'ai eu ça sur un MacBook Pro. Après 2, 3 ans d'utilisation, ma batterie s'est mise à gonfler. Là, le truc, on peut quand même reconnaître que les batteries n'ont pas l'air trop, trop mal faites. Elles gonflent, mais elles n'explosent pas. Ceux qui ont eu l'iPhone, qu'ils ont reçu comme ça gonflé, c'est ça qui intrigue le plus Apple. Parce que j'ai mené mon enquête. A priori, les gens dont l'iPhone 8 gonfle, c'est des gens qui l'auraient rechargé sur un chargeur Qi d'une certaine marque, qui a priori enverrait un petit peu trop de jus en wireless. Et du coup, parce que c'est une protection quand même de la batterie aussi, qu'elle se mette à gonfler comme ça, en gros, ça la met pour pas qu'elle explose justement, pour pas qu'elle prenne feu. Donc voilà, pour l'instant, Apple, et c'est pour ça qu'ils sont très intrigués par certains cas de gens qui disent c'est arrivé dans ma boîte avec la batterie gonflée, ça, ils comprennent pas trop chez Apple. Donc, l'enquête est menée. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont peut-être explosé sur un chargeur Qi et qui, du coup, le remettent dans la boîte et postent la photo pour être sûr qu'on leur change. Sachez-le, si ça vous arrive que votre iPhone 8 gonfle et l'écran se décolle, vous l'amenez dans un Apple Store, ils vous le changent tout de suite. Hein. Là, ils sont quand même en mode crisis parce qu'ils savent très bien chez Apple que des photos comme ça sur Twitter, ça peut rapidement créer un bad buzz. Mais on est quand même très très loin du phénomène du Note 7 avec les batteries qui prenaient feu et dans des quantités quand même plus importantes.
Bah, disons que là, ça ne met pas en danger la vie des personnes, hein.
Non, mais il faudrait pas que j'en ai beaucoup qui se mettent à gonfler parce que
Oui,
là.
mais je veux dire, enfin, à part si ça rivalise en termes de quantité, je veux dire, ça ne met pas en danger la vie
Non,
des
ça ne met
personnes.
pas en
Ce n'est
danger.
pas un téléphone qui explose
Et
et qui prend feu.
ce n'est pas non plus une batterie qui se met à dégorger ses produits toxiques. Voilà, les batteries gonflent, mais ça reste contenu à l'intérieur de l'enveloppe de la batterie. Donc, pas de panique. Hein, le mien, ça va. On regarde bien. Il n'a pas l'air d'avoir gonflé. C'est bon pour l'instant. C'est bon, c'est bon. C'est l'iPhone XXXL qui gonfle aussi sur le côté. Jusqu'à preuve du contraire, on va suivre l'affaire. Marion, on est super en avance ce matin. On
Ah ouais,
speed là.
punaise.
Waouh! On a speedé. Qu'est-ce qui nous arrive? On fait des blagues, pourtant on est efficace. Il y a un truc qui ne va pas.
Ah
Hein.
ouais, c'est bizarre.
Perdons du temps. Arrêtons d'être focus, moi je dis. Bon, Marion, parlons longuement donc de l'art.
On va parler d'art. D'art, alors qu'est-ce qui s'est passé? Jeff Koons, qui est un artiste renommé, hein, très très reconnu dans son domaine, qui est connu donc pour ses sculptures. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors je vais peut-être chercher rapidement pour vous montrer, pas montrer la dernière œuvre, mais montrer des exemples de ses sculptures, si j'ai du réseau en fait. Hop, voilà.
Une mauvaise langue, t'en as.
Oui, j'ai du réseau, j'ai du réseau. Et ben on va prendre
C'est pas
celle-ci.
lui qui avait fait les grands pots en fleurs aussi, les grands pots de fleurs?
Ben, il a fait plein de choses,
Ah
hein.
oui, là, le lapin, ouais, je reconnais. Ouais.
Le lapin.
Celui-là?
Ah oui.
Ouais.
Oui, je ne
Le
voyais même pas alors qu'il était
lobster
en face.
aussi.
Ouais.
Mais ça, c'est peut-être
Mais
le
ça,
plus connu.
c'est celui qui, ouais,
Ouais, c'est celui
qui a
qui fait.
été décliné, qu'on a pu voir pas mal de fois. Donc voilà. Il est connu pour la sculpture qui donc reprend la forme d'un chien gonflable, d'un caniche même gonflable. Donc vous avez la photo de l'artiste. Voilà, donc il est quand même très très connu pour ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien en fait, il a utilisé les nouvelles technologies pour placer. Vous savez que où on place son œuvre d'art aussi est un parti pris. Et un discours mené par l'artiste. Si tu places ton œuvre d'art dans un musée, que ce soit dans la nature, si c'est éphémère ou pas, tous ces critères-là font partie de l'œuvre et du message délivré par l'œuvre. Et donc là, tout simplement, il a fait un partenariat avec Snapchat pour placer son œuvre, donc, qui reprend une des déclinaisons de ce chien gonflable, de cette forme de sculpture de chien gonflable, pour le placer dans Hyde Park. Donc là, vous allez voir la
Et
photo.
d'autres
Attends, attends,
capitales. Ah,
attends.
pardon.
Et d'autres capitales dans le monde. Donc là, c'est un partenariat en réel pour la réalité augmentée, où ça superpose sur votre réalité, donc ici, Hyde Park, dans New York, etc., ça superpose un calque de réalité augmentée avec cette sculpture. Et donc la sculpture, vous la voyez, le chien gonflable de couleur dorée, mais vous pouvez aussi remarquer qu'il y a dessus des tags comme si c'était vandalisé. Et ben en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'autres artistes en fait qui se sont emparés de cette œuvre d'art en retravaillant sur cette forme. Ils ont superposé un autre calque qui a été envoyé aux mêmes coordonnées que les coordonnées de la sculpture. Et donc ça a créé une superposition d'œuvres d'art. Donc on a la première œuvre qui était en place, celle de Jeff Koons avec cette sculpture, et puis les deuxièmes, la seconde vague d'œuvres d'art qui sont ces tags qui, entre guillemets, vandalisent l'œuvre originelle, puisque des artistes se sont emparés et ont pris comme support la sculpture originale de Jeff Koons pour marquer les tags dessus. Et donc, c'est assez intéressant. Alors, en effet, D'autres, enfin, certaines personnes y verront un vandalisme d'œuvres d'art, d'autres y verront une superposition d'œuvres d'art à qui l'œuvre d'art appartient désormais, parce que le support fait partie de l'œuvre d'art pour les tags. Donc c'est intéressant.
C'est tout le débat d'ailleurs de l'art urbain.
Exactement, ouais. Et c'est quelque chose qui, là on peut voir la similitude entre l'espace physique et l'espace virtuel. Est-ce qu'on applique les mêmes règles, les mêmes lois à l'espace physique et à l'espace virtuel? Et donc, du coup, ça questionne aussi l'autorisation que l'on donne à Snapchat, société qui va potentiellement gagner de l'argent avec ce partenariat, qui va aujourd'hui mettre en place une œuvre d'art dans l'espace virtuel, mais demain, on va pouvoir peut-être afficher des publicités dans notre espace virtuel qui va être de plus en plus commun à nous, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus interagir avec cet espace virtuel ou augmenté et va potentiellement se rémunérer. Mais cet espace virtuel, la question, c'est il appartient à qui aussi? C'est une vraie question. Est-ce que l'espace virtuel est assujetti aux mêmes règles que l'espace physique? C'est-à-dire que l'espace virtuel ou augmenté du parc de Central Park à New York appartient à la ville de New York, puisque Central Park appartient à la ville de New York. Est-ce que son espace virtuel appartient aussi à la ville de New York? Et dans ce cas, qui a donné l'autorisation à Snapchat d'utiliser l'espace virtuel ou l'espace virtuel des différentes capitales pour poser les œuvres d'art de Jeff Koons? Est-ce qu'il y a un loyer de fixer, etc. Bref,
on a vu les prémices de ce débat, je me souviens, avec Pokémon Go.
Ouais.
Quand des Pokémon apparaissaient dans des propriétés privées, dans ton jardin et tout, de quel droit, finalement, la société exploitant Pokémon Go plaçait un objet virtuel chez toi?
Ou à des endroits dangereux.
C'était
la responsabilité de la ville aussi d'avertir Pokémon Go et de leur dire, s'il vous plaît, retirez certaines localisations de Pokémon qui sont dangereuses, près de falaises, etc., et qui pourraient causer des accidents.
Ça pose des questions super intéressantes, parce que je ne sais plus bien au niveau des lois, mais je crois que l'espace aérien au-dessus d'une propriété privée appartient jusqu'à un certain nombre de mètres et en dessous du sol. Et on peut se poser légitimement la question, l'espace de réalité augmentée autour de chez toi ou la propriété privée ou un parc qui appartient à la ville, effectivement, à qui appartient-il?
Tout à fait. Est-ce que c'est normal, imaginez demain où on porte tous des Google Glass mais c'est pas demain, mais imaginez dans le futur où tout le monde a accès facilement à la réalité augmentée. Sur votre trajet du boulot, en plus des publicités dans l'espace physique, vous pourriez être confronté à des publicités dans la réalité augmentée. Du coup, à qui l'argent irait? Voilà, parce que c'est partenariat, etc. Merci Pascal.
Merci Pascal pour les nuits blanches ce week-end. Merci. Oui, on a vu d'ailleurs pas mal de choses en street art pendant les nuits blanches.
Oui, c'était super.
Parce que j'en voyais certains qui disaient les graffitis, les tags, c'est plus à la mode et tout ça. C'est faux, le street art est en pleine. Mais c'est vrai qu'il est sorti un petit peu du côté dans les années 70-80. Le côté
il
tag
se positionne
de rue.
Différemment, ouais. C'est-à-dire qu'il y a différents modes de consommation maintenant du street art qui a commencé dans la rue et en vandalisant des métros, des murs, etc. Maintenant, il est plus légitimisé, donc il a changé aussi de discours. Il est pas critique de la même manière, il n'est pas revendicatif de la même manière, mais justement, il a d'autres. Mais il exprime autre chose aujourd'hui. Donc, c'est quand même tout aussi intéressant. Voilà, donc là, c'était une démarche d'artiste très intéressante, justement, pour questionner à qui appartient l'espace virtuel qui nous entoure, l'espace de réalité augmentée qui nous entoure, et est-ce qu'il ne faudrait pas réguler ça, donner des règles pour ces sociétés privées qui vont se faire du fric sur notre dos avec l'espace virtuel.
Tout à fait. Et je trouve ça intéressant à la fois ce que Jeff Koons a fait, mais également ce qu'ont fait les artistes en intervenant sur son œuvre, parce que d'abord, c'est ça aussi, hein, l'art doit rester vivant et faire de l'art avec de l'art, que ce soit en musique, que ce soit en peinture, etc.
C'est pas la première fois que des œuvres
sont détournées.
Complétées, mises en face d'une autre œuvre, et du coup, ça change la perspective du discours de la première œuvre. Rappelez-vous à la c'est Wall Street à New York avec
le taureau,
le taureau et la petite fille, la petite fille qui avait été rajoutée après, l'artiste qui s'était rebellé en disant ça change
le point de vue
du taureau et ça le place sous un angle négatif, etc. Donc vraiment c'est intéressant.
Et encore une fois, ça montre quand même l'utilité de l'art dans nos sociétés et la nôtre, où ça serait bien qu'on prenne un petit peu de recul, hein, tout va très vite. L'intelligence artificielle, réalité augmentée, réalité virtuelle, ça arrive là, maintenant. L'art nous aide aussi à prendre du recul par rapport à la société et à nous poser des questions tout à fait pertinentes.
Oui, à ouvrir un petit peu l'esprit sur des questions, importantes auxquelles on n'est pas forcément confronté tous les jours. Et comme tu le dis, à prendre du recul. C'est vrai que, par exemple, la Nuit Blanche était un événement grand public qui a permis de rendre accessible tout un tas d'installations et d'œuvres d'art qui ne sont pas forcément accessibles en temps normal. Donc, il y a une notion d'éphémère. Nous, par exemple, on a vu une installation avec des sculptures en glace et un parcours. Donc, à la fois les œuvres de sculptures en glace étaient éphémères, mais à la fois le parcours déclenché par une petite boule lumineuse rendait l'expérience limitée à un laps de temps bien spécifique. Donc, c'était assez intéressant et c'est bien de se confronter à l'art en règle générale. Et il y a toutes sortes d'art qui nous entourent aujourd'hui. Donc, on est assez chanceux en France quand même là-dessus.
Tout à fait. En parlant de ça et sans transition aucune, on va parler des avis de clients. Hein. Si, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Les avis de clients, la transition est très bonne.
Tu l'as déjà fait tout à l'heure. On se répète.
Non, mais j'ai tout balancé en début d'émission. Là, je commence à fatiguer. Non, sans rire, les avis de clients. Là, je reviens toujours sur mon expérience il y a 2-3 ans quand je travaillais pour une agence de pub dans le retail. J'avais, là encore, fait toute une étude avec des collègues, hein, d'ailleurs, sur la nouvelle importance de l'avis client avec des règles qui sont très intéressantes, qui sont... quelqu'un qui est mécontent va s'exprimer 11 fois plus que quelqu'un qui est content. Ça, c'est un des premiers problèmes des avis clients que peuvent avoir les e-commerçants. C'est que si vous laissez vos avis clients complètement ouverts, vous n'aurez que des plaintes, en fait. Parce qu'il n'y a que les gens qui ont un problème, finalement, qui vont prendre le temps et l'énergie pour poser leurs commentaires. Donc, si vous laissez ouvert, sans aucune modération, sans aucune incentive, comme on dit, l'avis client, vous n'aurez que des avis négatifs. Donc, on ne peut pas faire ça non plus. Après, comment inciter les gens à laisser des commentaires sur leurs produits? Ça aussi, c'est une vraie réflexion. Comment faire le tri dans les commentaires, dans les avis clients? Parce qu'aujourd'hui, vu qu'on connaît l'importance, effectivement, dans l'acte d'achat des avis clients, la tentation était trop grande et des boîtes se sont carrément montées pour créer des faux avis clients. Donc, il y a beaucoup de sites encore maintenant où il y a des faux avis clients. Il y a également des manœuvres plus sinueuses. Toi, influenceur, on te donne un produit, mais tu nous garantis que tu vas laisser un commentaire sur Amazon et qui sera plutôt positif, sinon on ne te file pas notre produit suivant. Quoi. C'est jamais écrit comme ça, c'est jamais dit comme ça.
C'est jamais dit, c'est sous-entendu.
Mais c'est sous-entendu.
C'est implicite.
Moi, le premier, il y a un an, vous avez testé un pied photo qui nous avait été envoyé par un fabricant chinois. Moi, j'avais bien précisé les conditions dans lesquelles ça avait été envoyé. Mais voilà, il disait « Nous sommes very happy, my very good friend, to send you this trépied. Can you put un avis sur mon my English is super good. un avis sur de la mise. » Mais ce que j'adore, c'est qu'il mettait « my beautiful friend ». Il m'appelait « my beautiful friend ».
Oui, mais c'est vrai qu'on reçoit des mails assez…
on nous propose beaucoup de nous donner des produits et qu'on mette un avis sur Amazon. Mais… c'est sûr que ça fait des avis biaisés, tout ça. Donc, il serait temps qu'on légifère, et c'est ce qui va se passer en France, en tout cas, et j'ai plus de réseau, donc je ne peux pas vous faire l'article. Pourquoi ? J'ai plus de réseau du tout. Attends, une seconde. J'ai plus de réseau. Je suis mort. Donc, effectivement, ça a l'air de revenir. Tiens, je vais prendre celui-là. Effectivement, c'est la République numérique. Donc, il y a des projets de loi. Le gouvernement, en tout cas, à l'époque de la loi sur la République numérique, il y avait déjà des projets mettant les avis en ligne de manière explicite sur leur publication, ont fait l'objet d'un processus de vérification. L'idée, c'est maintenant, et certains sites le font, hein, de vous dire très exactement quels sont les avis vérifiés. C'est-à-dire, est-ce que l'achat est vérifié? C'est-à-dire, on vous demande de justifier votre bon d'achat à la validation de votre commentaire pour avoir un commentaire validé. Déjà, pour éviter les faux avis de gens qui n'ont même pas acheté le produit. Après, il y a des choses plus délicates à faire, mais on sait qu'Amazon est en train de faire un peu la chasse, justement, à ce système je file des produits aux influenceurs et ils me mettent des avis positifs. En fait, Amazon va combattre ça par son propre système de prêt de produits aux influenceurs. Un petit peu, parce que nous, c'est très tentant. Je ne suis pas un gros influenceur, mais je suis quand même un testeur tech. C'est tellement chiant d'obtenir les produits en prêt, souvent auprès des RP, des marques, que c'est tentant quand on nous propose un produit gratos, parce qu'au moins, on aura le temps de le tester, on le teste quand on veut, etc. Donc, ça a aussi des raisons pratiques. Donc, ça serait bien, par exemple, que Amazon prête plus facilement des produits aux testeurs. Ça nous éviterait de tomber dans le piège du produit offert, quoi. Mm. Ouais, ça viendra. Je suis sûr que ça viendra.
Je précise, hein, la Kindle a été achetée et renvoyée.
Ouais. Ben, on peut le dire, hein, même c'est ce que Amazon nous dit officiellement de faire en ce moment, nous les testeurs.
En attendant,
ça marchera pas pour tout le monde, hein. Mais en attendant qu'ils aient mis en place un système, c'est qu'on prend le produit, on a 15 jours pour le tester, 30. On le renvoie. 30 jours et après on le renvoie.
Enfin, pour la Kindle, c'est...
Ouais. Oui, ça dépend des produits en fait. Donc, effectivement, je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais il serait important, vu encore une fois l'importance de l'avis client, qu'on légifère sur le sujet et en tout cas qu'on puisse trier ce qui est un avis vraiment pertinent et ce qui n'est pas un avis pertinent.
Et même les avis négatifs qui sont enlevés et supprimés.
Oui, mais là aussi, attention.
Quand il y a ce genre de pratique, c'est intéressant de savoir.
Ouais. Mais là aussi, attention, parce que comme je l'ai dit en tout début d'article, si vous laissez faire, il y aura toujours 11 fois plus d'avis négatifs que des avis positifs. Donc, si tu veux une équité aussi, il faut que tu favorises les avis positifs par rapport aux négatifs.
Oui, mais ça ne veut pas dire supprimer et enlever.
Non, non.
C'est-à-dire avoir une stratégie
d'incitation.
Et on l'a vu, hein, un exemple flagrant, c'est les applications. Lorsque l'App Store a commencé, lorsque les App Store ont commencé, il n'y avait aucune stratégie pour les retours, les avis d'application. Donc la plupart des avis que vous aviez sur les stores, que ce soit Android et iOS, étaient plutôt négatifs. Et puis au fur et à mesure, on a vu une stratégie, des applications ont mis en place une stratégie interne dans l'app pour lorsque vous finissez une session, lorsque vous avez accompli et réussi à faire quelque chose, vous demandez qu'est-ce que vous pensez de l'application. Si vous mettez une bonne note, ça vous renvoie vers l'app. Si vous mettez une mauvaise note, ça vous en renvoie vers le support de l'application pour éviter de vous rediriger vers l'App Store.
Ouais, ouais.
Ce qui est intéressant parce qu'en même temps, ils veulent avoir votre feedback et établir une vraie communication avec l'utilisateur. Donc voilà, c'est ça, avoir une stratégie. C'est un exemple sur comment proposer d'avoir une stratégie pour avoir des avis constructifs sur l'application et s'intéresser à sa communauté.
Il y a surtout, je trouve, une obsession, on le voit dans notre public, de l'espèce d'avis définitif. Et je comprends, on a une telle surabondance de choix, c'est qu'on voudrait l'avis sûr, tu vois, l'avis qui va nous dire définitivement l'iPhone 8, il est nul, ou l'iPhone 8, il est très bien. Donc, cette obsession aussi, moi, je m'en suis vraiment aperçu avec mon test de l'iPhone 8, des gens, et encore là, ce matin, des gens n'arrêtent pas de me dire, oui, mais comment ça se fait que toi, tu l'as trouvé bien, alors que 01net, il ne le trouve pas bien, notamment en photo. Ben, on a le droit d'avoir des avis différents. Mais il y a cette peur de l'avis différent et des avis nuancés et différents échos. On voudrait l'avis définitif. Ok, ce produit-là, il est nul. Ce produit-là, il est bien.
Bien sûr.
Et moi, je le dis en tech, de plus en plus, il y a des produits qui sont bien pour certaines personnes qui vont être nuls pour d'autres. Parce que les produits vu le manque d'innovation et de marge d'innovation, notamment chez les smartphones, les produits sont de plus en plus spécialisés. Donc voilà, ne vous attendez pas à des avis monolithiques, en tout cas chez Naotech. Marion.
Et puis on termine, avec une petite annonce. C'est une annonce qui concerne Sony et son chien Aibo. Alors qui a déjà eu un chien Aibo, un petit robot Aibo comme ça, qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès dans les années 90, non ?
99, il coûtait d'ailleurs 2000 francs, je me souviens. Ouf. Ben non, mais 2000 francs, Marion, oui, c'est, pas si, c'est pas si cher que ça.
Oui, aujourd'hui, aujourd'hui. Mais si c'était en francs, on n'avait pas la même
notion. Non, c'est beaucoup moins cher qu'un smartphone.
Patrick en a eu un, d'accord.
Ouais.
Et t'en gardes un bon souvenir ? Est-ce que vous en gardez un bon souvenir ?
Mais surtout, est-ce que vous les avez gardés ? Parce que les vieux vinyles,
j'en rêvais, je sais, il nous dit, oh mon Dieu, ça fait longtemps, pour les 2000, si pour l'époque, une invention mal exploitée. Alors, justement, tu aimes bien en parler. Lors de la restructuration de Sony, ils avaient justement, en 2006, ils avaient, dans un effort de réorganisation et de arrêter les coûts, enfin de réduire les coûts, ils avaient arrêté le robot Weibo, parce que c'est un petit robot, le chien Weibo, Aibo. Et ils l'avaient arrêté. Et donc, l'annonce, c'est qu'ils vont justement réinvestir dessus, ils vont le relancer et retravailler justement le robot pour aller plus loin, intégrer de la connectivité et de l'intelligence artificielle pour qu'il puisse apprendre avec le temps, se perfectionner, pouvoir interagir avec son environnement et potentiellement ses propriétaires. Donc ça sera assez intéressant. Après, Sony se rend bien compte que la notion d'intelligence artificielle est un domaine au stade infantile, c'est-à-dire qu'il en est vraiment au tout début et qu'il y a une notion de vie privée, de comment on utilise l'intelligence artificielle et qui peut mener à beaucoup, beaucoup d'attaques, de plaintes, etc. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec...
l'appareil photo de... T'as vu la réaction d'Elon Musk par rapport à l'appareil photo ?
Je ne parle pas de ça, mais...
Bah, si, justement. Non, mais désolé, je fais juste une intervention que je trouve pertinente. Tu sais, l'appareil photo de Google avec intelligence artificielle qui va décider des photos qu'il va prendre. Elon Musk a fait un tweet, il a fait je ne sais pas comment interpréter ce qu'il a dit, mais en gros, il dit il ne se cache même pas de faire un truc aussi intrusif, quoi. Enfin, il a une réaction très brutale par rapport à cet appareil photo. Donc, je disais ça par rapport à la notion de vie privée d'intelligence artificielle dans des objets.
J'avais un autre exemple. C'est justement un objet qui a été retiré et abandonné par une marque. C'était un assistant vocal pour les enfants où il y avait justement... c'était censé l'aider à interagir, ça interagissait avec lui, etc. Et sous prétexte que ça aurait pu être utilisé pour remplacer nurturing, l'encadrement de l'enfant pour l'aider à s'épanouir, par la famille, les parents et l'entourage humain, là-bas, il a été retiré du marché via plein de plaintes qui ont été déposées par des associations de parents et d'enfants, etc., pour la protection de l'enfant. Et donc voilà, donc la notion d'intelligence artificielle fait peur encore aujourd'hui, à prendre le pas sur l'humain avec des mauvaises utilisations. Il y a la notion de vie privée aussi, de données. Après, ils savent qu'ils ont du retard par rapport à d'autres grands géants qui se sont déjà lancés dans la course. Sony est au courant de son retard et justement va travailler là-dessus. Donc voilà, il se relance dans la course.
Vous êtes encore là, la chatroom ? Je ne vois plus de chat depuis 2 minutes. Là, je...
On en a vu, non ?
Non, parce que j'ai scrollé sur les anciens, mais... Ah oui, c'est bon. Bon, vous écoutez religieusement.
Eh bien, voilà. Donc voilà, pour Sony, on n'a pas de date pour l'instant. C'est juste qu'ils se sont relancés sur le sujet.
Tout à fait, mais c'est vrai que... toi, tu... Ça y est, c'est bon. Là, on a une coupure. C'est pour ça je pense qu'on avait perdu la chatroom. Mais c'est bon, on est revenu. On est revenu. Vous nous voyez.
On est de retour normalement.
On est de retour.
D'accord.
5 sur 5, c'est bon.
Merci.
OK. C'est vrai qu'ils avaient quand même réussi, à la fin des années 90, Notamment en termes de design, l'objet avait eu beaucoup de succès parce qu'il était vachement sympathique. Bon, toi, tu n'as pas l'air fan, mais...
Non, mais moi, j'avais des chiens, donc je veux dire, un petit robot. Enfin, moi, quand j'étais petite, j'avais des chiens, donc forcément...
Ça fait pas de crotte, quoi. Tu n'as pas à le nettoyer.
Mais je ne nettoyais pas les crottes de mes chiens, il y avait un jardin hein, quand j'étais petite.
Je ne me roulerais pas dans l'herbe dans ton jardin de quand tu étais petite. Bref, non, moi, je suis content qu'Aibo revienne. C'était un personnage, je ne l'ai jamais eu, j'en ai toujours eu envie.
Tu ne prendras pas un petit chat, tu prendras un Aibo?
Non, mais je pense qu'on peut faire coexister des pets. T'imagines un petit compagnon robotique pour Whisky? Un robot qui dormirait toute la journée comme Whisky?
Non, pour
qu'il fasse des séries. On va lui faire faire de l'exercice.
Il va avoir
un petit
tort,
truc qui court. Après, il est 9h pile, Marion. Moi, je dis travail de pro. 9h pile, fin du Texcope, début du QNR.
Bonne journée à toi, Gilles.
Samuel, est-ce qu'on a des questions Platinium ce matin? Je suis très fier là qu'on ait terminé à 9h pile.
À Whisky.
Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions Platinium
ce matin. Pas de questions Platinium, dit Samuel.
Très bien. Donc, on va prendre vos questions. Merci Samuel de rappeler le Tipeee. On remercie. Il faut que je prenne le réflexe qu'on remercie les super chats de cette émission.
Merci Patrick.
Patrick et Pascal. Merci pour vos super chats.
Et merci évidemment à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière, que ce soit via les dons Tipeee. Un grand merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, que ce soit un don unique, que ce soit un don mensuel. Un grand merci à vous. Vous êtes le moteur de la chaîne YouTube, évidemment.
Vous êtes le carburant, même, si on reprend la note.
Ouais, le carburant, tout à fait. Voilà. Et ensuite, il y a évidemment les personnes qui nous soutiennent via les liens d'affiliation qui sont tout aussi important hein, pour nous. Je rappelle que ça ne vous coûte pas un sou, mais par contre, nous, ça nous positionne en tant qu'apporteur d'affaires auprès d'Amazon et de d'autres partenaires avec lesquels on a des liens d'affiliation. Donc, ça nous permet de toucher un pourcentage sur le prix du produit. Donc, un grand merci à ceux qui ont pris le réflexe d'utiliser les liens d'affiliation. Et dans les périodes de fin d'année avec le Black Friday et Noël qui approchent, c'est le bon réflexe à adopter si vous souhaitez soutenir la chaîne sans faire trop d'efforts et sans amputer votre budget. Et puis ensuite, il y a évidemment les likes sur Facebook, il y a en parler autour de vous, auprès de vos amis qui seraient susceptibles d'aimer la tech et donc de trouver nos émissions utiles. Un grand merci à ceux qui nous soutiennent de toutes les manières possibles.
Allez, on commence les questions. À quoi sert l'iPad mini? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les grands iPhones, il a moins de pertinence, je dirais, l'iPad mini.
Ça dépend la taille des devices que vous avez.
Mais je connais des gens qui disent c'est vraiment con qu'ils ne le remettent pas à jour, l'iPad mini, parce que c'était un format que j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, je pense que des gens qui aimaient vraiment le format de l'iPad mini devraient regarder du côté de Samsung Note 8 que je suis en train de tester, qui a un bon compromis, je trouve, entre un téléphone et une petite tablette.
Ouais, les liens, c'est bien que ça soit dit clairement et que ce ne soit pas fait à votre insu. En effet, on a toujours voulu avoir une politique de transparence. Les liens d'affiliation sont un moyen de faire subsister la chaîne.
Qui devient important. Hein,
voilà, faites l'effort de cliquer dessus et on veut que vous le fassiez en pleine connaissance de cause, en pleine conscience. Lorsque vous cliquez sur un lien, vous soutenez aussi la chaîne. Donc, c'est aussi important pour nous que vous soyez remerciés comme il se doit sur l'effort que vous faites.
Quel est le prix à mettre dans un objectif Pana Olympus pour un très grand angle? Alors, tu as par exemple le 7-14 de chez Pana F4, il est dans les 800 euros. Je dirais qu'il faut mettre entre 500 et 1000 euros si tu veux vraiment un bon grand angle. Chez Olympus, je crois qu'il y a du grand angle. Je crois qu'ils ont un fisheye. Je ne sais plus à combien il est. Mais dis-toi quand même une chose, du très grand angle alors que tu as du micro 4 tiers, forcément, tu n'auras jamais du très, 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 très grand angle à cause du crop factor.
Voilà. Alors, il y a une question, c'est d'où vient le nom No Watch?
Non, No Tech.
Non,
Ah
No
non,
Watch.
No Watch.
Donc en fait, justement, il ne s'écrit pas comme ça et c'est la confusion que peut-être les personnes ont eu entre No Watch et No Tech.
Ouais.
C'était No Watch TV. Donc ne regardez plus la télé, mais venez sur Internet. C'était justement pour encourager le nouveau moyen de consommation de programmes sur Internet. Vous avez le choix, on ne vous impose pas les programmes. Donc c'était la différence entre la télé et le reste. Et donc après, c'est vrai que je rame à monter No Tech TV. C'est maintenant la tech.
Alors, en fait, j'avais commencé à acheter des noms de domaine qui devaient être Now Movie, Now Tech,
Mais ça avait moins de sens pour le
Now.
coup.
Oui, ça avait moins de sens. Et quand tout s'est effondré avec No Watch, j'avais déjà le nom de domaine Now Tech, donc j'ai continué avec le nom Now Tech, voilà, pour la petite histoire. Oui, c'était No Watch TV, en fait, l'idée originale de No Watch. Est-ce que c'est un pull de l'armée? Non, c'est le pull de la police basque. En tout cas, c'est ce qu'on nous a raconté.
Je
vais scroller
après.
Ah oui, c'est
après. Ah non,
pas tant
que ça.
Non, non, ben oui.
C'était juste que tu étais revenu avec
un smartphone pour adolescent, un budget raisonnable, 300 € max. On n'est pas des spécialistes des entrées de gamme.
On est un peu des divas en termes de smartphone.
Ben non, mais l'iPhone SE, moi, je trouve que c'est un bon smartphone pour ado aujourd'hui. Voilà.
Le Texcope 565 n'est plus en ligne. Non, il n'a pas été striké. C'est un problème de mise en ligne du côté YouTube.
Ouais.
Et donc, on n'a aucun moyen de le récupérer. Donc, malheureusement, en effet, il a planté. Donc, vous n'aurez pas le replay. On s'en excuse. C'est vraiment lié, pour le coup, à YouTube. Et c'est indépendant de notre volonté.
Est-ce que tu utilisais un bumper Rhino Shield pour iPhone? On sent les gens qui regardent Jojol. Non, on n'a pas Rhino Shield en sponsor.
On se demande si tu ne devrais pas en utiliser un pour ton iPad.
Ça fait 4 fois que je le fais tomber sur son écran, mais ça tient.
Une belle frayeur là.
Ouais, une belle frayeur ce matin. Non, moi, je n'aime pas mettre des écrans sur mes smartphones. Je trouve ça complètement... Enfin, quelque part, ça me paraît absurde.
Non, le bumper, c'est pas un écran.
Oui, les bumpers... Non, Rhino Shield, je connais pas du tout. Rhino Shield, appelez-moi, offrez-moi 6 iPhones qu'on les fasse gagner à la communauté.
Est-ce que Whisky regarde Neotech TV? Alors, il a déjà joué sur l'iPad avec un jeu pour les chats à choper des petites souris qui bougent. Mais je trouve que ça crée plus de frustration qu'autre chose parce qu'il ne peut jamais... les attraper, avoir la récompense d'avoir sa proie. Et donc, je trouve que ça crée une certaine frustration sur le chat.
Ah, il a l'air hyper frustré.
Sur le chat. Donc, en fait, je préfère le faire jouer avec une canne à pêche avec des plumes au bout. C'est son jouet préféré.
Ah, c'est sûr que ça ne le frustre pas du tout que les plumes, il n'y ait pas un oiseau et à manger derrière. Non,
ben non, parce qu'à la fin,
il l'attrape. Non, je
lui laisse la canne à pêche un petit peu pour qu'il puisse mordre les plumes, etc.
Tout à fait.
Voilà.
On remonte un petit peu dans les questions.
Non, il défonce pas l'écran, il fait pas de douce et il tape juste sur l'écran.
On remonte trop. Reposez vos questions.
Quelle est la meilleure solution pour utiliser son tel aux USA pendant un voyage? SIM prépayé, laquelle?
Nous, ce qu'on avait vu la dernière... Toi, aux États-Unis, t'as fait quoi?
On m'a prêté une SIM.
Ouais, on t'a prêté une SIM.
Attention, parce que selon les opérateurs, ça ne sera pas compatible avec votre iPhone. Moi, je crois que c'était Verizon. Et ce n'est pas compatible.
C'est pas normes,
j'ai dû avoir un autre iPhone avec moi pour avoir le réseau cellulaire. Je crois que c'est T-Mobile qui est compatible. Et un des opérateurs qui est compatible. Mais Verizon, je crois, fait partie de ceux qui n'est pas compatible.
J'ai entendu parler il n'y a pas longtemps d'une société française, mais il faut vous renseigner, qui est en train de bosser sur le sujet pour qu'avec ta SIM, tu puisses avoir des crédits data à l'étranger plus facilement. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce n'est pas simple, surtout pour les États-Unis. Alors en Europe, maintenant, le problème est quasiment résolu. Mais si vous partez en Asie, Afrique ou aux États-Unis, moi, je dirais que le mieux, c'est d'acheter des cartes prépayées là-bas. Mais vérifier effectivement les normes de réseau, parce qu'il peut y avoir des incompatibilités techniques en Asie comme aux États-Unis.
Oui, on nous dit AT&T et T-Mobile sont compatibles.
Mise à jour iPhone SE. Non, pour l'instant, il n'y en a pas eu.
Connaissez-vous le Canopy de Studio Neat?
Non. Voilà.
Voilà, ben, vous avez les réponses.
Ouais.
Une alternative au DJI Osmo Mobile plus abordable.
Oui, chez là où j'ai acheté mon Crème 2, Zingyou, je crois, Repose-moi la question sur Twitter. Je te donnerai un lien. J'ai entendu de très bonnes critiques, effectivement, sur leur gimbal pour smartphone aussi. Moi, j'ai acheté leur gimbal pour ma grosse caméra, le Crane 2, et ils en font un bien pour le mobile. Donc, je te donnerai le lien.
Il y a une question sur M26. Est-ce que c'est bien? Moi, ça a été la solution que j'ai adoptée quand je suis partie aux États-Unis. En plus, j'avais eu un délai de une semaine et j'ai réussi à recevoir ma carte juste avant de partir. Super, super bien. Attention, vous n'avez pas de frais lorsque vous payez avec votre carte M26 parce que vous avez un taux de changement de monnaie là. Comment on appelle ça?
Un taux de conversion.
Un taux de conversion, merci. Au taux du jour, donc vraiment immédiat. Attention par contre au retrait d'argent. Là, il y a des frais. Donc limitez au maximum vos retraits d'argent sur place. Moi, j'en avais fait un, je crois. Donc au final, ça s'est bien passé. Et ça m'a vraiment, vraiment dépanné. Donc très bonne expérience pour moi, N26.
Conseilles-tu toujours le Glyph pour les smartphones? Plus que jamais, j'en ai acheté un deuxième.
Ouais, il faudrait peut-être que je m'en achète.
Franchement, ils sont top, légers, solides, très fiables. Franchement, si vous cherchez un support pour smartphone, pour l'instant, c'est ce que j'ai testé de mieux.
Marion, est-ce que tu as des dysfonctionnements avec ta Chromecast? J'en ai toujours eu chez moi. J'en ai jamais eu quand j'étais à New York parce que je l'avais prise avec moi. J'ai jamais eu de problème tout le temps où j'étais à New York.
Non, mais ici, c'est parce qu'on a des problèmes d'IP, en fait.
Mais même quand t'es pas là, j'ai des problèmes.
Mais oui, mais l'IP, c'est pas que moi.
Hein. Oui, mais alors que quand j'étais à New York, j'avais quand même mon iPad, j'avais deux iPhones.
Mais je pense que ça vient plus d'un problème de ta box numérique câble SFR, qui est au-delà d'un certain nombre d'IP, alors elle se met complètement en vrac. Mais on avait le même problème chez moi.
Hein. Oui. Mais j'ai pas plus, si la question est-ce que tu as des dysfonctionnements en ce moment, j'ai pas plus de dysfonctionnements en ce moment qu'auparavant. Hein. C'est plutôt égal.
Qu'est-ce qu'on pense du Pixel 2
Vous sautez tout le temps ma question, pourquoi? On ne fait pas exprès, Patrick, mais il y a beaucoup de personnes, donc en effet, on peut oublier les questions.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on les lit sur le smartphone, donc en gros, il y a les 3-4 dernières phrases qui s'affichent et les autres sont chassées très vite de notre vue. Donc,
j'ai un problème sur mon iPhone 8 Plus, j'ai iOS 11 et quand je tape un texte dans message, j'ai le trait en bas de l'iPhone X, celui qui permet de slider les apps. En as-tu déjà entendu parler? Bah, c'est pas vraiment un problème, c'est pas très très grave, non?
J'ai pas compris.
Il a le trait des apps en bas qu'il devrait pas avoir parce qu'il est pas sur iPhone X.
Ah.
Mais ça t'empêche pas d'utiliser l'application. En tout cas, moi j'en ai pas entendu parler avec la dernière mise à jour 11.1.
Ouais, moi je l'ai pas.
Non, c'est pas.
Oui,
c'est pas
avec le clavier.
Non, mais c'est pas dans Flipboard.
Bon, d'accord.
Moi j'en ai pas entendu parler d'avoir le petit trait pour les iPhones qui sont pas X, d'avoir le petit trait dans les apps, j'en ai jamais entendu parler.
Celui qui posait la question, qu'est-ce qu'on pense du Pixel 2 de Google? Écoute, ça a l'air d'être un très bon smartphone, mais comme il sera pas disponible en France, a priori, moi si Google nous boycotte, je vais pas les tester juste pour tester un smartphone qu'on n'aura pas distribué en France. Je vois pas l'intérêt.
Il est 9h12, on va peut-être pas tarder. Ouais. Salut Marion, tu vas prendre. Je vais prendre l'iPhone 10.
Ouais.
On attend Jérôme et moi, on va tous les deux prendre un iPhone 10.
Ne demandez pas Pixel 2 versus LG V30, on a testé aucun des deux. Donc, vous me connaissez, je ne veux pas vous donner vraiment la réponse sur des fiches de spec que j'ai lues chez d'autres. Moi, je ne donne des avis que sur ce que je teste vraiment.
Voilà. Dernier précommandé ou acheter le 3 novembre? Je vais le précommander, je ne prends pas le risque de l'acheter le 3 novembre. À votre avis, combien de temps faudra-t-il pour les autres opérateurs? C'est la dernière question qu'on prend. À votre avis, combien de temps faudra-t-il pour les autres opérateurs pour se mettre en place pour l'Apple Watch Cellular?
Au mieux Noël, au pire 6 mois.
Ouais.
Je ne pense pas que Orange ait réussi à avoir une exclusivité jusqu'à Noël. Mais on verra bien. Et s'ils ont une exclusivité, normalement, ça dure rarement plus de 6 mois maintenant. Apple a dû accepter, mais on verra. Hein, mais ça m'étonnerait que ça excède 6 mois, en fait.
C'était la dernière question. Désolée à toutes les personnes qui en ont posé d'autres et donc on a raté. On s'en excuse. On fait notre possible pour avoir le maximum de questions. N'hésitez pas à garder vos questions, à les reposer un autre jour, à les copier-coller quelque part pour que ce soit plus facile pour vous pour les reposer plusieurs fois. On vous remercie à tous ceux qui. On remercie toutes les personnes qui nous ont suivis durant ce live. Un grand merci à vous. On commence toujours la semaine du bon pied en votre compagnie. Et puis, on vous retrouve, ou Jérôme vous retrouve demain matin.
Toi, ça sera a priori mercredi. Ouais. Voilà. On vous souhaite un bon début de semaine. Salut tout le monde. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.
Bonne journée.